Elle a eu son âge d'or, mais c'est apparemment fini. La pilule contraceptive a de moins en moins la cote, notamment auprès des plus jeunes femmes qui semblent de plus en plus lui préférer l'implant sous la peau du bras ou le stérilet. Aujourd'hui, un peu plus du tiers des Françaises prennent encore la pilule. Elles étaient 45% il y a seulement 10 ans. L'affaire des pilules de 3e et 4e génération, dont on disait qu'elles pouvaient provoquer des thromboses, est sans doute passée par là. Mais aussi et surtout, les méthodes contraceptives se sont diversifiées et les femmes ne sont plus aussi disposées à supporter seule la charge contraceptive, qui peut d'ailleurs entraîner chez certaines des effets indésirables. D'où la demande grandissante dans les couples d'une contraception qui serait assurée par l'homme. Mais la pratique reste balbutiante, relativement contraignante ou irréversible. La plus importante de ces pratiques de contraception masculine étant encore la vasectomie, à laquelle 1% des Français seulement se sont résolus, beaucoup moins par exemple que nos voisins belges ou anglais. Pour en parler avec nous dans ce téléphone sonne Sabrina Debusca, journaliste santé indépendante, collaboratrice du webzine féministe Chic Magazine, auteur du manifeste féministe « Marre de souffrir pour ma contraception ». Bonsoir à vous Sabrina Debusca.
Bonsoir Yves.
Vous êtes à Poitiers dans les locaux de France Bleu Poitou. Erwan Taverne est avec nous en direct de Toulouse, activiste de la contraception masculine et qui la pratique depuis des années. Bonsoir Erwan Taverne.
Bonsoir Yves.
Avec nous également en ligne dans un instant, Daniel Aptekier, coprésident d'Ardécom, l'association pour la recherche et le développement de la contraception masculine. Contraception, les hommes aussi. Le téléphone sonne, c'est jusqu'à 20h. Vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000.
Yves Decamp. Le téléphone sonne.
Le premier appel nous vient de Paris. C'est vous, Samuel. Bonsoir à vous.
Bonjour, bonsoir.
Nous vous écoutons. Vous êtes tout jeune.
Oui.
Allez-y.
Je voulais savoir, est-ce qu'on peut considérer que le préservatif est suffisant pour les rapports sexuels? Parce que, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il faut que les hommes soient davantage responsabilisés lors des rapports. Hein, parce qu'effectivement, la pilule engendre des problèmes... À des répercussions sur les femmes. Donc, est-ce qu'il y aurait également des prototypes de contraception moins contraignants qu'un préservatif? Parce qu'il faut, il faut savoir que déjà, les préservatifs, c'est assez incertain. Hein. On demande souvent à la femme également si elle peut... on prend aussi ses précautions... vis-à-vis de sa compagne, est-ce que tu as bien pris la pilule pour s'assurer, parce que c'est quand même assez incertain. Et je suis désolé, je vais devoir mettre les pieds dans le plat, mais c'est quand même pas très agréable le préservatif, parce qu'en fait, il y a votre pénis qui est retenu par un film plastique. Et enfin, disons que c'est, donc est-ce qu'il n'y aurait pas un prototype comme un peu une espèce de médicament comme...
D'accord. Je peux vous demander votre âge, Samuel?
17 ans.
Voilà, et donc vous êtes tout à fait d'accord pour convenir que la contraception doit être partagée.
Oui, bon, moi je n'ai aucune expérience, hein. Bon. Mais j'ai quand même un avis.
Bien sûr.
Voilà.
Merci beaucoup.
Comme tous les gens de mon âge, d'ailleurs.
Eh bien, parfait. Mais tant mieux. Merci à vous de votre témoignage. Sabrina Debusca, une réaction. Vous voyez que les jeunes se sentent concernés, en tout cas, par le sujet.
Absolument, les jeunes hommes se sentent beaucoup plus préoccupés par le sujet que leurs aînés. Malheureusement, le domaine de la contraception et encore plus de la contraception masculine est un sous-domaine de la recherche. Ce sont les chercheurs eux-mêmes qui nous le disent, qui sont souvent d'ailleurs des chercheuses en contraception masculine. Donc il faudrait déjà, pour trouver les contraceptions masculines agréables pour les hommes, il faudrait déjà les chercher, et donc c'est des budgets. Et ça, malheureusement, pour le coup, on ne développe pas grand-chose en ce sens. Erwan pourra vous parler d'une des rares contraceptions masculines sans effet secondaire qui existe, à savoir le fameux slip chauffant, qui fait rire la France entière. Mais malheureusement, c'est vrai que le préservatif est désagréable, mais pour le coup, les femmes aussi ont des effets secondaires avec la leur de contraception, donc difficile de trouver. C'est vraiment, comment dirait-on, ça se négocie dans le couple, au cas par cas.
Alors pour résumer les différentes méthodes de contraception masculine, le slip chauffant ou la contraception thermique, pour dire les choses de façon plus jolie, on en parlera tout à l'heure avec Erwan Taverne, le préservatif, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? La vasectomie, mais c'est irréversible, et l'injection hormonale.
Tout à fait, les injections hormonales, qui, il y a un article dans le Néon du mois de mai, donc le magazine Néon du mois de mai dernier, où un journaliste a testé cette solution. Donc c'était assez intéressant d'avoir son retour, parce que c'est rare. Et parmi les contraceptions masculines du futur, celles qui sont actuellement en développement, on a donc la fameuse pilule masculine, hein, le serpent de mer depuis des décennies, les injections, mais qui seraient améliorées, parce qu'actuellement, un homme qui a des injections hormonales masculines, donc c'est une sorte de pilule, mais ce sont des injections à se faire soi-même chaque semaine, donc c'est quand même assez contraignant. Il y a des vaccins immunocontraceptifs, la recherche travaille là-dessus, des stérilisations temporaires où on mettrait un gel dans les canaux spermatiques pour les boucher, ou encore des mini-valves mécaniques, c'est-à-dire qu'on aurait un peu un bouton on-off selon si on a envie d'avoir un enfant ou pas. Voilà pour ce qui est actuellement testé. Également, je crois, un projet de préservatif assez intéressant qui ne se placerait pas sur l'ensemble de la verge, mais uniquement là où va sortir le sperme. Donc ça serait assez intéressant parce que ça permettrait d'éviter ce déplaisir dont nous parlait votre auditeur.
Alors Erwan Taverne, vous êtes, je l'ai dit, activiste de la contraception masculine, donc vous pratiquez la contraception thermique, le slip chauffant.
Depuis 3 ans, j'utilise la méthode thermique. Alors par contre, on ne parle pas de slip chauffant, plutôt de slip contraceptif ou de boulot chaud, parce que le slip en lui-même ne chauffe pas, hein, c'est juste la chaleur du corps qui est utilisée.
Oui, mais le principe c'est de chauffer de façon à diminuer la production de spermatozoïdes.
Oui, en fait, les testicules seront suspendus dans les bourses pour être à une température de 34 degrés Celsius, habituellement. Et là, en les rapprochant du corps avec ce sous-vêtement, on les maintient à 36, 37 degrés Celsius, ce qui bloque la production de spermatozoïdes. Mmh. Par contre, comme ça représente seulement 1 à 2% du volume du sperme, c'est complètement imperceptible, en fait.
Mais c'est contraignant. Il faut porter le slip pendant 15 heures par jour, pendant 4 ans.
Ça fait 3 ans que je l'utilise quotidiennement. C'est une habitude à prendre, mais clairement, moi, je trouve ça très très peu contraignant, bien moins que la plupart des méthodes qu'on propose aux femmes. Mmh. Et puis, ça amène. C'est toujours une histoire de coût-bénéfice, hein, la question de la contraception. Et moi, clairement, dans ma sexualité, c'est un facteur très épanouissant.
Et pourquoi avoir fait ce choix, justement?
Alors, il y a deux raisons essentielles. La première, c'est le partage de la charge contraceptive. Effectivement, là, on peut parler d'une contraception partagée. Et pour autant, cette contraception n'a pas vocation à se substituer à la contraception des femmes. Elle peut être en plus pour deux raisons. La première, c'est pour combler les éventuels échecs de contraception, puisque aucune méthode n'est fiable à 100%. Et puis, l'autre raison, c'est que on n'est pas obligé de s'en remettre à sa partenaire pour faire valoir son refus de procréer.
Et est-ce réversible ?
Oui, sans problème.
Ouais. Vous en êtes sûr ?
Alors, les tests ont été effectués. Là, dans un essai clinique, ça a été testé jusqu'à 4 ans. Maintenant, moi, j'ai été personnellement en contact avec quelqu'un qui l'a utilisé 5 ans en dehors de cet essai, qui ensuite a pu procréer sans aucune difficulté, avec une gamine qui va très bien. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là.
Alors, vous disiez à l'instant qu'aucune méthode n'est fiable à 100%. Si, il y a la vasectomie. Bonsoir à vous, Claude.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Dordogne et vous avez pratiqué la vasectomie.
Oui.
Allez-y, nous vous écoutons.
Nous étions d'accord, mon épouse et moi, après avoir eu 2 enfants en bonne santé, pour rééquilibrer les responsabilités en matière de contraception dans le couple. Donc je suis allé en Hollande, parce qu'en France c'était très difficile de trouver un médecin qui accepte de pratiquer cette petite opération.
Alors c'était il y a très longtemps alors ?
En 76.
D'accord.
Ça a été à peine autorisé à l'époque. Il y avait très peu de médecins qui franchissaient le pas et il fallait les connaître, quoi. Enfin, c'était pas évident. Donc, donc j'ai 2 enfants qui se portent bien maintenant, qui ont 2 enfants chacun. Et tout va bien, quoi. C'est pas un problème.
Alors, l'irréversible, le côté irréversible de la chose ne vous a pas fait réfléchir?
Non, mais j'avais lu quand même, je m'étais quand même renseigné, j'avais lu une thèse de médecine d'une jeune femme qui avait justement travaillé sur les suites psychologiques de la stérilisation féminine et masculine. Mmh. Donc elle a parlé de la vasectomie, elle conseillait de ne faire la vasectomie ou la stérilisation féminine qu'après 36 ans et 3 enfants. Moi, j'avais 2 enfants et 34 ans. Bon, j'étais dans la moyenne, quoi. Mmh.
Parce que beaucoup de témoignages nous font part du fait qu'ils ont en même temps, les hommes qui ont pratiqué la vasectomie, il y a quelques centaines d'hommes en France, hein, ont en même temps procédé à la congélation des spermatozoïdes auprès d'un sécos, au cas où.
Voilà. À l'époque, ça n'existait pas.
À l'époque, ça n'existait pas, effectivement. Mais merci beaucoup de votre témoignage, Claude. Il y a Stéphane par courriel qui nous dit que si peu d'hommes font une vasectomie en France, c'est justement parce qu'il est difficile de trouver un toubib qui veuille bien le faire. Il a eu lui-même toutes les peines du monde à se faire opérer il y a quelques années. Sabrina de Busca, pourquoi ces difficultés à pratiquer la vasectomie en France?
Alors en France, c'est tout simplement une histoire de mentalité, puisqu'au Québec, par exemple, c'est beaucoup plus prégnant et beaucoup d'hommes passés la quarantaine offrent à leurs femmes une vasectomie comme une sorte de cadeau de libération contraceptive. En France, en fait, c'est uniquement depuis 2001 et la loi Leonetti, si je ne m'abuse, que la stérilisation volontaire n'est plus considérée comme un acte mutilant. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, cet état d'esprit finalement infuse dans notre société. On est également la France, un pays latin. Hein, où voilà, la virilité n'est peut-être pas la même qu'ailleurs. Mmh. Et donc, c'est vrai que, et du côté des médecins, et du côté des hommes, ça freine encore un petit peu des cas de fer. Et voilà, on est encore beaucoup sur le schéma préservatif en début de couple, puis pilule, et puis ensuite on considère normal que ce soit la femme, vu que c'est elle qui tombe enceinte, qui assume la charge contraceptive. Mais au vu des nouvelles jeunes femmes qui sont en train d'arriver, ça risque de changer, parce que ce sont les femmes elles-mêmes dans l'alcôve qui commencent un peu à mettre la pression sur leurs hommes. Le problème étant, on en discute depuis tout à l'heure, c'est le manque de solutions qu'il y a derrière, parce que le préservatif, ben voilà, c'est vrai qu'on peut reconnaître que ça a plein de désavantages, et c'est pour ça d'ailleurs que notamment j'ai actuellement lancé une pétition pour demander au gouvernement français une concertation nationale sur la contraception, et notamment pour développer des contraceptions masculines, parce que sans budget, ça n'avancera pas. Donc il faut en parler, il faudrait que tout le pays se mette autour de la table et qu'on en discute, les chercheurs, les médecins, les hommes, les femmes, il n'y a pas de raison que ça n'avance pas.
Erwan Taverne, pourquoi n'avoir pas fait ce choix de la vasectomie?
C'est un parcours personnel. Je me suis posé cette question. J'avais du mal à avoir les informations sur les éventuelles complications post-opératoires. Bon, maintenant, je suis renseigné. Aujourd'hui, je pourrais sans problème l'envisager. En attendant, j'ai découvert la méthode thermique que j'ai essayée et qui me convient très bien. Donc, pour le moment, je suis pas pressé de passer à la vasectomie.
Alors, vous êtes quelques dizaines d'hommes simplement à pratiquer, hein, en France.
Alors, pas par manque de volontaires, hein, essentiellement parce qu'aujourd'hui, les slips ne sont pas encore fabriqués industriellement. Et donc, il est difficile pour le médecin qui les propose de les fournir à chaque personne qui en souhaiterait.
Alors, comment faites-vous ?
Alors, donc, j'ai pris contact avec ce médecin qui est à Toulouse, et puis qui a été d'accord pour me les fournir. Mmh.
Alors à propos de médecin, nous avons un médecin généraliste en ligne, Clément, je crois. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez d'Annecy.
Exactement.
Allez-y, nous vous écoutons.
Donc merci pour votre sujet, d'autant plus que je suis médecin généraliste donc à Annecy et je suis très intéressé par la contraception masculine parce que j'ai eu l'occasion d'être formé à ce sujet-là. Et que
il y a une formation pour les médecins automatiquement.
Tout à fait. Bah justement, l'un de vos invités m'a formé par rapport à son association au centre de planning familial de Grenoble il y a maintenant un peu plus d'un an. Et ça m'a justement permis de développer cet axe-là auprès de mes patients hommes et également de mes patientes femmes pour les informer que ça existait. Et je pense qu'il est important que les hommes passent la porte des cabinets médicaux pour en parler avec leurs médecins. Qui n'attendent pas leur femme pour le faire, et que ce soit pas une histoire de téléphone arabe, que la femme en parle à l'homme et que l'homme éventuellement le fasse seulement, mais que eux-mêmes, en écoutant votre émission, prennent ce temps-là. Et puis, je voulais passer le message à tous mes confrères généralistes de prendre le temps de se former à ce sujet-là, parce que je pense vraiment que ça fera évoluer les mentalités que nous prenions le sujet à bras-le-corps. Et c'était important de voir le sujet de votre émission, j'étais très content de l'entendre.
Eh ben tant mieux. Et les hommes qui viennent vous voir, quelles sont les demandes, quelles sont les attentes? Est-ce qu'ils vous posent spontanément des questions sur ce sujet?
Alors oui, la majorité, quand ils le font, ça reste assez rare encore, mais les quelques-uns qui l'ont fait venaient notamment pour la vasectomie et étaient justement en difficulté par rapport à trouver un urologue pour le faire. À savoir qu'en fait, la difficulté, comme l'a dit votre invité, était liée à la mutilation, considérée comme une mutilation jusqu'en 2001. Je pense qu'en 2019, on peut se permettre de trouver dans son réseau local un urologue fiable et de confiance avec ses patients. Et ce que j'ai pu faire, j'en ai voilà 2-3 sous la main. Et maintenant, j'ai plus de difficultés pour adresser mes patients à ces urologues, en notant bien quand même que la sécurité sociale, pour l'instant, reconnaît cet acte comme un acte vraiment à très faible niveau et que ça pose notamment parfois un problème de dépassement d'honoraires pour des confrères urologues tout à fait compétents et qui juste essayent de faire leur travail correctement.
Et on peut préciser, puisque vous êtes médecin, j'en profite, pour dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire, trouble de l'érection, baisse de virilité ou de libido.
Tout à fait. Comme l'a dit votre collègue, les spermatozoïdes représentent seulement 1% du sperme. Donc ça n'entraîne aucune de ces conséquences-là. Ça passe globalement inaperçu auprès du patient, si ce n'est l'acte chirurgical en lui-même et le contrôle du spermogramme, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a plus de spermatozoïdes actifs au décours de la chirurgie.
Et vous, la contraception thermique, le slip chauffant, vous en dites quoi ?
Bah, j'aurais, on va dire, presque aimé l'essayer en tant que patient. Pour l'instant, ma femme préférait être elle-même à l'initiative, ce qu'on avait d'ailleurs entendu au décours de la formation en centre de planification, que les femmes aussi, pour certaines, souhaitaient garder la main sur être sûre qu'elles ne pouvaient pas procréer, puisque derrière, c'est elles qui avaient la grossesse. Mais je suis d'accord aussi avec le monsieur qui est porteur de la solution thermique, pour dire que pourquoi finalement ce serait pas 50-50, c'est-à-dire des couples avec un homme qui prend cette responsabilité-là, et effectivement qui est une responsabilité importante pour le couple dans une relation de confiance.
Voilà. Alors vous êtes médecin, mais apparemment tous vos collègues ne sont pas d'accord avec vous. Julie nous appelle à l'instant. Bonsoir à vous Julie, vous êtes médecin également
Oui, bonsoir, oui, je suis également médecin.
Et contre le slip chauffant?
Oui, parce que pour moi, l'augmentation de température en fait des testicules augmente le risque de cancer du testicule, donc c'est quand même pas négligeable, et risque de créer une azoospermie, enfin c'est-à-dire une stérilité complète définitive. En fait, pour moi, c'est pas une solution temporaire et c'est une solution dangereuse.
Alors, qu'est-ce que vous proposeriez à vos patients?
Alors, franchement, à l'heure actuelle, on peut proposer que le préservatif et la vasectomie. Il n'y a pas d'autres techniques envisageable pour le moment, qu'on peut recommander les yeux fermés. Quoi.
L'injection hormonale, non.
L'injection hormonale, actuellement, c'est non. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui se fait dans le cadre de la cancérologie, c'est pas quelque chose qui se fait pour la contraception.
Merci à vous également, Julie, de ce témoignage. Erwan Taverne, vous entendez les conseils du médecin?
Alors, je suis tout à fait au courant de ça. Et en fait, donc le docteur Roger Mieuxet s'est penché sur le problème depuis la fin des années 70. Donc, il a eu largement le temps de vérifier toutes ces données-là. Donc, voilà, lui, c'est son domaine de recherche. Il a effectué des expériences, des essais cliniques sur des êtres humains, mais aussi sur des animaux, qui ont permis de vérifier qu'il n'y avait absolument aucun problème. C'est une question qui revient souvent, la question du cancer testiculaire. On sait qu'il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Et de la même manière, concernant la réversibilité.
Voilà, docteur Mieuxet avec le docteur Soufir, les deux pionniers de la contraception masculine. C'est ça, Erwan Taverne.
Oui.
Merci à vous. Autre témoignage, autre invité plutôt, Daniel Aptequier. Bonsoir à vous, Daniel Aptequier.
Bonsoir.
Vous êtes le coprésident d'Ardécom, l'association pour la recherche et le développement de la contraception masculine. Vous avez entendu le début de ce débat, notamment deux médecins qui ne sont pas d'accord.
Voilà. Bah alors, Clément, je le connais puisque j'ai assuré la formation, donc le salut avec le planning familial à Grenoble, et je vois que ça a porté ses fruits. Et quant à la réaction de Julie, que je salue aussi, bien que je ne la connaisse pas, je la défie de trouver une quelconque étude évoquant un risque de cancer des testicules par élévation des testicules à 36-37 degrés et une quelconque étude qui a pu même simplement évoquer une azoospermie définitive. Ça fait partie des légendes qui empêche la contraception masculine de se développer sous quelque forme qu'elle soit, parce qu'il n'y a aucune étude au monde n'a montré de risque de cancer des testicules par élévation de la température, surtout à une température de 36 degrés ou 37 degrés, puisque comme Erwan vous l'a expliqué tout à l'heure, on utilise la température du corps pour augmenter la température des testicules qui, a priori, sont en dessous de 35 degrés, on a une température qui ne peut absolument pas monter au-dessus de 37 degrés, et donc les risques évoqués sont de la pure légende.
Sabrina Debusca, spécialiste des pratiques de contraception, journaliste santé, vous avez des éléments d'information sur ce point ?
Ça me fait penser à, par exemple, nous avions, il y a une phrase intéressante de Carl Girassi, qui est le monsieur qui a développé, c'est l'inventeur d'une des hormones qu'on a eu dans la première pilule, qui a expliqué que l'absence de pilule pour les hommes n'a rien à voir avec la science, on sait exactement comment la développer, mais qu'il n'existe pas une seule boîte pharmaceutique qui accepterait d'y toucher pour des raisons économiques et sociales, mais pas scientifiques. Ça me fait exactement penser à ce que j'entends là aujourd'hui. On a un gros problème, je l'évoque dans mon dernier manifeste que vous avez cité tout à l'heure, marre de souffrir pour ma contraception, on a un gros problème d'information des médecins, que ce soit dans la formation initiale comme dans la formation continue, concernant la contraception. Déjà, côté contraception féminine, la formation n'est pas si longue que ça, et en continu, c'est-à-dire tout au long de leur carrière, les médecins sont financés, c'est le Formindep qui nous le dit, à 98% par des formations financées par l'industrie. Donc les médecins ne sont pas, par exemple, informés des solutions comme celle qu'on évoque depuis tout à l'heure, de la contraception masculine thermique. L'information est déjà assez mauvaise en contraception féminine. Alors, je vous laisse imaginer l'information en contraception masculine. Et effectivement, l'art des coms lutte et fait très bien son travail depuis les années 70 à ce niveau-là.
Et de votre point de vue, ce manque d'avancée sur la maîtrise de la fertilité masculine, ça vient de quoi ? Du caractère patriarcal de la société ? C'est une barrière sociale, psychologique ?
Étonnamment, sachez que les hommes finalement s'occupaient de la contraception depuis bien plus longtemps que les femmes, puisque la principale contraception qu'a utilisée l'humanité reste le retrait. Et donc on sait par exemple, les démographes comme Henri Léridon nous ont montré que depuis 1750, les couples seuls se sont mis à pratiquer le retrait et que c'est uniquement dans les années 60 que les féministes ont voulu s'approprier la contraception, ce qu'on peut comprendre. Donc du coup finalement les hommes ont toujours été très impliquées, même beaucoup plus que les femmes dans la contraception, puisque avant qu'elle n'existe au niveau médicalisé. Mais c'est, moi je pense que c'est une histoire de mentalité. La pilule a été un tel symbole qu'aujourd'hui on a du mal à aller au-delà. Et en fait, si vous voulez, comment dire, imaginons-nous dans 200 ans ce que diront les gens de nous aujourd'hui, de ce qu'on fait. Par exemple, le fait de prendre des hormones dans notre corps, de trouver ça normal, etc. Alors que ça a plein d'effets secondaires. Peut-être que, comment dire, j'essaye souvent, je dis dans mes conférences, on me dit « Ah oui, mais la pilule, vous tapez dessus, c'est pas bien ». Je dis « Mais écoutez, essayez d'imaginer quelqu'un dans les années 20. En 1920, vous prenez quelqu'un dans la rue, vous lui dites « Eh, dans 40 ans, tu n'auras plus peur chaque fin de mois parce que tu auras une petite pilule formidable qui va te permettre d'avoir une contraception efficace. » Essayons dès maintenant de nous projeter de la même façon sur ce qui pourra advenir dans le futur au niveau contraception. Malheureusement, on n'y pense pas parce qu'on se repose sur nos lauriers contraceptifs depuis les années 60, on s'est dit.
C'était un progrès quand même, Sabrina de Busquet.
Évidemment.
Vous savez que
Ce que je dis, c'est que la pilule, on s'est reposé depuis sur la pilule en se disant c'est le produit miracle, donc on ne développe pas autre chose.
Le symbole du combat des féministes qui aujourd'hui sont un petit peu choquées par votre discours, j'imagine, hein, parce qu'elles se sont battues pour la pilule et aujourd'hui vous dites on n'en veut plus.
Oui, sauf que moi, je dis pas on n'en veut plus. Ce que je dis juste, c'est que simplement, ce sont les femmes elles-mêmes qui disent on ne veut plus avoir sur le dos toute la charge contraceptive avec les effets secondaires qui vont avec. En fait, les femmes nous disent moi, j'en ai marre de, pour faire l'amour librement et sereinement, devoir prendre un médicament, ce qui est tout à fait logique et basique en fait comme réaction, mais simplement la pilule a été un symbole et moi je renie pas du tout ça. Ce que je dis simplement, c'est maintenant il faut avancer, parce que moi ce que je vois, c'est que les jeunes, elles sont de moins en moins à vouloir prendre des contraceptions hormonales ou médicalisées et que on n'a rien développé pour toutes ces générations. Et donc on va vers quoi ? On va vers du coup des gens qui vont utiliser des contraceptions moins efficaces ou qui ne vont plus aller voir leur médecin, et c'est là qu'on prend des risques en fait. Et moi justement, si je demande une Concertation nationale contraception. Et je suis pas la seule, on a été 25 000 à signer cette pétition. C'est pour justement mettre tout le monde autour de la table, sans préjugés, sans stéréotypes, et se dire, bon, ben, maintenant, on fait quoi?
Pétition qui s'appelle donc Marre de souffrir pour notre contraception, c'est sur change.org. Daniel Aptequier, la pilule pour hommes, hein, c'est pas pour demain, hein. Il y en a pour au moins 10 ans.
C'est pour hier, là, si vous voulez, toutes les méthodes que Sabrina a évoquées tout à l'heure sont des méthodes qui sont à un stade vraiment très très à leur tout début et ne pourront pas voir le jour avant au moins une vingtaine d'années, alors que la pilule pour hommes, si on entend une méthode hormonale de contraception, ça existe depuis longtemps. Moi-même, je l'ai pris pendant 5 ans, il y a une trentaine d'années. Ça a été mis au point à partir d'études internationales par Jean-Claude Souffire, dont vous avez parlé. C'est prescrit donc dans des centres hospitaliers à Paris et à Toulouse par Jean-Claude Souffire ou Roger Miosset.
La pilule pour hommes.
La pilule, ce qu'on entend par pilule, c'est méthode hormonale, mais effectivement.
C'est l'injection, alors, vous voulez dire?
Ça peut être l'injection, et effectivement.
Ah oui, c'est tout à fait différent. Une injection, c'est quand même très contraignant. Injection hebdomadaire, rappelons-le.
Vous parliez aussi de très contraignant. Je vais revenir sur votre question, mais vous parliez tout à l'heure de dire c'est très contraignant de porter un slip 15 heures par jour. Je sais pas comment vous vous habillez, monsieur Decan, le matin, mais vous mettez un slip en général. Et si moi je venais d'une autre civilisation, je disais, ça doit être vachement contraignant. On porte un slip aux heures où on porte un slip habituellement, c'est-à-dire une quinzaine d'heures par jour, ce qui doit être à peu près votre cas. Je vous demande
j'entends
pas
de
dévoiler
votre
intimité, mais c'est pas plus contraignant que de porter un caleçon ou un slip habituellement. On a l'impression que c'est contraignant parce qu'on a cette image mentale de la contrainte, mais ça l'est pas plus que de porter un caleçon. En méthode contraceptive, j'ai utilisé la méthode hormonale. Je vais revenir sur votre. Le slip n'est absolument pas contraignant. Certainement moins contraignant que pour une femme de devoir porter un soutien-gorge avec des baleines et un truc qui lui comprime la poitrine.
Mais l'injection, alors, on parlait de l'injection.
L'injection, effectivement, on est dans un phénomène qui n'est pas tout à fait naturel. Là, toutes les méthodes de contraception ont leurs contraintes, l'injection. Les hommes qui utilisent cette méthode considèrent pas que c'est tellement grave de devoir avoir une injection hebdomadaire. Il y a effectivement des travaux qui sont faits pour qu'on arrive avec une autre forme de testostérone à des injections mensuelles. Mais ça ne paraît contraignant que quand on n'est pas motivé. Quand on a le minimum de motivation à devoir prendre en charge sa contraception, ce qui est le cas pour les femmes, certaines utilisent un stérilet, d'autres trouvent que le stérilet c'est avoir un objet dans son corps et que c'est pas bien. Chacun doit pouvoir trouver la méthode qui lui convient. Donc pour les hommes, il existe effectivement 3 méthodes. Qu'on a évoquées. Oui. La méthode thermique, la méthode hormonale qui pour l'instant en France est prescrite sous forme d'injection hebdomadaire, que pour ma part, moi j'ai utilisé en prenant un comprimé de progestatif à une époque et en utilisant en mettant la testostérone par voie percutanée. C'était la voie percutanée existait dans les années 70-80. Il n'y a plus beaucoup de produits médicaux maintenant qui sont sous cette forme. On est plus dans des questions de praticité et un peu parfois de mode sur l'usage. Et puis la dernière méthode, c'est la vasectomie. On en a parlé, vous avez beaucoup insisté sur l'irréversibilité.
Oui.
Il faudrait quand même dire que si la vasectomie est peu pratiquée en France, puisque dans les pays anglo-saxons, les hommes en âge de procréer, utilisent pour 15 à 25% selon les pays, 15 à 25% d'entre eux, la vasectomie.
En France, c'est 1%, 1% à peu près.
Vous êtes optimiste, je pense, quand on dit 1%. Ça, on est vraisemblablement plus près de 0,5 que de 1%, parce qu'effectivement, elle a été interdite en France de 1920 à 2001. Et la stérilisation féminine, qui, elle, est beaucoup plus pratiquée, même si on n'est pas dans les proportions de la pilule féminine que vous avez évoquée, la stérilisation féminine est beaucoup plus pratiquée, alors qu'elle, elle est totalement irréversible. Il se trouve que la vasectomie a une double réversibilité, je dirais une réversibilité virtuelle par la conservation du sperme. Je rappelle que la conservation du sperme, c'est quand même juste se masturber dans un tube à essai évasé. C'est peut-être pas la façon la plus sympa de se masturber, mais en termes de prélèvement, c'est quand même pas la façon la plus difficile. Et puis, il y a une... Donc on peut conserver du sperme, le sperme peut être conservé 30 ans, 35 ans dans les sécos, comme vous l'avez bien dit au départ de l'émission. Et puis il existe une opération inverse de la vasectomie, alors beaucoup plus lourde, hein, puisque la vasectomie c'est un geste chirurgical hyper léger qui se fait en ambulatoire, qui dure 10 minutes à un quart d'heure.
Oui, quelques auditeurs nous demandent comment ça se déroule, donc il s'agit de couper les canaux déférents transportant les spermatozoïdes. Oui, opération assez bénigne.
Ah ben oui, même au Royaume-Uni où la plupart des généralistes sont formés à la microchirurgie, vous allez chez votre généraliste et vous sortez un quart d'heure après vasectomisé. C'est une opération bénigne. En France, ça peut se faire en ambulatoire. Parfois, les médecins préfèrent garder, les urologues préfèrent garder une nuit le patient, mais c'est vraiment hyper bénin. Et l'un des problèmes peut-être de la vasectomie du peu de développement de la vasectomie, c'est que c'est quelque chose qui est un geste hyper léger qui ne coûte que 60 euros a priori.
Et c'est pas, mais pas remboursé, hein.
C'est remboursé.
C'est remboursé maintenant.
Totalement remboursé. Mmh. La conservation est aussi gratuite. Il n'y a aucun problème là-dessus. La vasovasostomie, je ne sais pas si c'est.
Oui, c'est réparer ensuite les canaux déférents quand on a changé d'avis. Bon.
C'est rendre perméable ce qu'on a rendu imperméable à un endroit. On reperméabilise en reboutant les deux. Les deux bouts de canaux déférents. Voilà.
Merci à vous, Daniel Aptoki. Restez avec nous.
France Inter. Le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Avec un témoignage qui nous vient d'Angleterre, Ken, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous nous appelez de Brighton.
Absolument. Alors, c'est génial de vous entendre discuter comme ça de la vasectomie, parce que c'est un geste que je l'ai pas fait moi-même, évidemment, ouais. Mais j'ai vu mon chirurgien il y a à peine 9 mois, je me suis fait faire la vasectomie il y a à peine 7 mois, et c'était une formalité extraordinairement simple en Angleterre, un premier rendez-vous, une consultation, un historique de mon environnement familial, et puis le rendez-vous était pris. Et de manière assez rapide, puisque ça s'est fait en l'espace d'un mois, l'opération elle-même, rendez-vous 11h, et 11h20, on est déjà parti dans le taxi pour rentrer à la maison.
Et donc une pratique assez courante en Angleterre, comme le disait Daniel Aptoquier.
Oui, très courante en fait. Moi, je suis tombé sur un chirurgien qui pratique ça depuis plus de 30 ans. Et en fait, pendant l'opération, ce qui était assez amusant, parce que je ne savais absolument pas à quoi m'attendre, je m'étais absolument pas documenté sur Internet pour savoir comment l'opération se déroulait ou toutes les photos un peu effrayantes qu'on peut voir. Moi, je suis arrivé là, j'étais pleinement éveillé, une petite anesthésie, et puis la conversation allait bon train. Et puis il me racontait toutes ses expériences durant ces 30 dernières années, et notamment la plus marquante, je dirais, il a été dans une caserne militaire anglaise, opéré trois militaires, et il a fini sa journée à opérer 27 militaires dans la journée qui avaient changé d'avis qui voulaient le faire le plus rapidement possible.
C'est du prosélytisme. Mais vous-même, pourquoi vous avez fait ce choix? C'est pour soulager votre épouse?
C'est très égoïste. Et oui, aussi pour soulager mon épouse, mais pour dire la vérité, c'était avant tout égoïste. J'ai moi-même 5 enfants en tout. Et donc, bon, le souhait de ne plus avoir d'enfants, le souhait de ne plus avoir d'accident, le souhait d'épargner un éventuel accident à ma femme, et puis voilà, l'avenir étant complètement incertain, s'il m'arrive de rencontrer, je ne sais pas, 60 ans ou 65 ans ou 70 ans, et le fait d'avoir à affronter une nouvelle paternité, non merci, très peu pour moi. Donc c'était très égoïste. Voilà, avant toute chose.
Merci à vous en tout cas de votre témoignage. Avec beaucoup de réactions à cette émission, de réactions qui vont vous faire réagir sans doute, Sabrina de Busca. Par exemple, Alain qui nous dit « Comment faire confiance aux hommes cela serait un moyen, cette contraception masculine, encore pour nous les hommes de contrôler la femme. Comment peut-elle nous faire confiance puisque si l'homme souhaite que la femme soit enceinte, c'est bien lui qui décidera. »
Non, en effet, il y a beaucoup de femmes. Moi, quand j'ai fait des conférences sur concernant la pilule, les effets secondaires, beaucoup de femmes étaient d'accord pour dire qu'elles en avaient ras-le-bol de ces effets, mais qu'en revanche, en effet, elles n'auraient pas forcément envie de faire confiance à leurs compagnons sur ce sujet-là. Donc moi, je pense qu'il y aura toujours un certain nombre de femmes, à mon avis plus de 50%, voire plus, qui voudront garder la contraception entre leurs mains.
Donc l'homme après, si l'homme oublie sa pilule, ce sont les femmes qui paieront les conséquences.
Exactement. Et donc voilà, ça, je pense que ça restera un sujet féminin et qu'il faut que ça le reste. En revanche, ce que je remarque, c'est que ce sont les évolutions sociétales, les changements de rapport entre les hommes et les femmes, positifs comme négatifs. Par exemple, le fait que les gens soient moins en couple ou aient plusieurs couples dans leur vie ou soient parfois peut-être plus infidèles, je ne sais pas. Mais le couple évolue et donc du coup, la contraception évolue aussi. Et il y a beaucoup d'hommes, notamment des hommes à qui on fait entre guillemets un enfant dans le dos, ça arrive, qui effectivement, eux, veulent pouvoir prendre en charge leur contraception. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus.
Erwan Taverne, sur tout ce que vous venez d'entendre, une réaction. Il y a Anne-Claire qui nous dit quand même, et elle n'a pas tout à fait tort, qu'il ne faut pas oublier que le préservatif, ce n'est pas seulement un contraceptif, hein, ça protège aussi des MST comme le sida.
Oui, alors justement sur ce côté égalitaire, il me semble vraiment important de se rendre compte qu'un homme peut vite devenir un oppresseur quand sa partenaire lui annonce qu'elle est enceinte et qu'elle a peut-être envie de le garder alors que lui n'en avait pas forcément envie. Donc s'il veut agir, c'est forcément avant qu'il y ait fécondation. Et le seul moyen pour ça, c'est que lui, il dispose de méthodes efficaces pour se contracepter. Le préservatif, c'est effectivement une méthode essentielle pour se protéger des infections sexuellement transmissibles. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des échecs et que, du coup, l'homme s'en remet à sa partenaire en ce qui concerne une éventuelle grossesse non désirée. Donc, c'est pour ça que c'est important que les hommes puissent disposer eux aussi de ces méthodes efficaces. D'ailleurs, sur l'efficacité des méthodes dont on parle, on est à plus de 99% hein, sur les méthodes dont on parle. Donc on est sur la même efficacité que les meilleures méthodes proposées aux femmes. Ensuite, sur le rapport au milieu médical, il faut savoir que voilà, il y a des hommes qui aujourd'hui n'ont pas envie d'attendre le développement de ces méthodes-là avec les lenteurs que ça peut avoir et qui aujourd'hui apprennent à fabriquer eux-mêmes ces sous-vêtements et à s'en servir. Il y a beaucoup d'initiatives hein, dont j'ai pas eu le temps de parler ici, mais les hommes prennent ces questions en charge dès aujourd'hui.
Je sais plus si on a évoqué le problème, mais combien le problème bassement matériel, combien ça coûte, c'est remboursé, comment ça se passe?
Moi, le médecin m'a fourni les sous-vêtements. Les spermogrammes sont également remboursés. Ça a un coût, si c'était généralisé, ça a un coût très faible, hein, puisque un sous-vêtement, ça ferait une contraception à moins de 2 euros par mois. Ensuite, le spermogramme est un examen très très simple, donc qui coûte peu cher. Et justement, on a l'avantage avec ces méthodes contraceptives de pouvoir vérifier leur efficacité avant de se retrouver face à une grossesse non désirée. Il suffit de se masturber et de vérifier et d'observer l'éjaculat au microscope pour constater que ça fonctionne très bien.
Allez, dernier appel, ce téléphone sonne avec vous. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Vous êtes formatrice en physiologie féminine.
Tout à fait, en physiologie féminine et en symptothermie moderne. Je suis également pharmacienne, pour info. Et donc je suis tout à fait d'accord avec Sabrina, je la remercie pour son livre, pour le courage dont elle fait preuve. Et pour moi, il est vraiment primordial de conserver l'intégrité des fonctions aussi bien physiques que physiologiques, de l'homme et de la femme. Je trouve que lorsque l'homme s'amuse à jouer à l'apprenti sorcier, en général, ça se termine plutôt mal. Et pour moi, il y a une méthode qui permet vraiment d'éviter toute opération, toute castration, voire toute mutilation physique ou chimique. C'est la symptothermie moderne. C'est une méthode éprouvée qui a une efficacité égale à celle de la pilule, voire même supérieure, à condition que la femme, voire le couple, soit bien formé avec du personnel à sermenter, entre guillemets.
Comment ça se pratique ?
Alors, en fait, c'est une méthode qui couple l'observation à la fois des règles, de la température et de la glaire cervicale. Ça peut paraître contraignant, mais en fait, c'est une redécouverte que la femme, voire le couple, fait du corps féminin, et c'est absolument magique. Donc ça permet, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, à la femme de garder la mainmise sur son corps, sur sa fertilité. Elle maîtrise tout. Et bien sûr qu'il y a une période durant laquelle le risque est bien sûr évident, mais c'est peut-être l'occasion pour le couple de découvrir d'autres formes d'échange. Il y a bien sûr le préservatif, il y a le diaphragme qu'on utilise très peu en Europe, mais qui est très courant aux États-Unis. On peut coupler les deux durant cette période-là, et on peut également découvrir d'autres formes de tendresse, d'affection, voilà.
Je suis obligé de vous presser, Hélène.
Oui, je veux juste dire aux femmes, ne vous laissez pas influencer, écoutez votre intuition.
Merci beaucoup de votre témoignage, Daniel Apteu. Pour conclure avec vous, donc la confiance, c'est primordial dans le couple.
Oui, votre question sur la confiance m'a interpellé, et ce que je veux dire, c'est que la Ardécom ne cherche pas à remplacer, à obliger les femmes à arrêter de se contracepter pour que les hommes prennent la place, mais que les hommes prennent leur part. Et donc, ensuite, chaque individu, chaque homme, chaque femme, chaque couple qui prend sa décision. Et effectivement, je suis assez d'accord sur un point avec la dernière intervenante qui est sur la découverte du corps. Tout ça, c'est très bien. Et puis, je voulais dire que les méthodes de contraception masculine, on peut mesurer et très vite leur efficacité. Un spermogramme, on vous l'a expliqué, c'est quelque chose de très simple. On voit si l'homme est fertile ou pas par un résultat de spermogramme. Et on aurait dû dire ça avant, c'est que la spermatogénèse, c'est un processus long qui dure 93 jours, et donc on peut pas avoir d'un coup, parce qu'on oublie, un retour de fertilité.
Merci beaucoup, je vais être obligé de vous interrompre, Daniel Apteu. Merci d'avoir participé à cette émission, co-président d'Ardécom, donc l'association pour la recherche et le développement de la contraception masculine. Sabrina Debusca, la contraception idéale, celle du futur, c'est quoi ? Des hommes autant impliqués que les femmes ? Et une efficacité sans effets indésirables.
Exactement.
C'est ça.
Voilà. Ben oui, il faudrait. Enfin, il y en a. Alors parce que voilà, il y en a marre de souffrir pour faire l'amour. À la base, c'est quelque chose de plutôt bien. Vous en conviendrez. Donc bon, si on pouvait développer et en tout cas diriger notre regard en tant que société vers des contraceptions qui font avec le corps et non contre. Je pense que voilà, il faut se remettre dans la même mentalité que ceux qui ont eu la folie d'inventer la pilule et qui l'ont rêvé et qui l'ont inventé. Et ben aujourd'hui, c'est la même chose. C'est une contraception efficace, oui, mais sans effet secondaire.
Merci à vous, Sabrina Debusca, journaliste santé indépendante. Collaboratrice au webzine féministe Chic Magazine. Je rappelle votre manifeste, votre pétition « Marre de souffrir pour ma contraception ». C'est un livre aussi d'ailleurs, paru aux éditions Les Liens qui Libèrent, et c'est une pétition sur le site change.org. Merci à vous Erwan Taverne, activiste de la contraception masculine. Merci donc à Daniel Apteu. À la technique ce soir, il y avait Henri Berck et Patrick Henri. Merci à Anna Bui pour la réalisation, Pierre de Certaine et Mathilde Sourd pour la préparation, et spécial remerciement à Emma Ferret qui a eu l'idée et l'envie de ce sujet.